Chapitre 55. En fin de compte, ce ne fut pas seulement l'éloquence d'Orphue, mais une myriade de facteurs qui convainquirent les Moraveks de lancer la navette porteuse de la Dame Noire. La réunion se tint avant l'expiration du délai de 2 heures suggéré par Astikché. Les événements se précipitaient. 20 minutes après qu'ils se furent retrouvés sur la coque de la Reine Mab, Manmut et Orphue étaient de retour sur la passerelle de commandement, communiquant par mode vocal dans une atmosphère pressurisée au niveau terrestre, avec le Calistan Choli, le prime intégrateur Astikché, le général Baby Nadi et son lieutenant Mepahu, l'impressionnant Suma 4, un rétrograde sinopécène fort agité et une demi-douzaine d'autres Moraveks, intégrateurs et militaires mêlés.
« Voici la transmission que nous avons reçue il y a 8 minutes »,
déclara Choli l'astrogateur. Presque tous l'avaient déjà entendue, mais il la repassa néanmoins sur le faisceau cohérent. Les références de l'émetteur étaient les mêmes, celles d'un astéroïde de l'anneau polaire d'une taille comparable à celle de Phobos, mais en lieu et place d'une voix féminine, on leur envoyait une série de coordonnées et de vecteurs d'approche.
« Cette dame souhaite que nous lui amenions Odysseus dans les plus brefs délais », commenta Orphue. « Il n'est pas question pour nous de faire le tour de la Terre au préalable. »«
Pouvons-nous le faire ?»
s'enquit Manmut.
« Aborder directement son astéroïde orbital, je veux dire ?»«
Oui, à condition de réactiver la propulsion atomique afin d'adopter une forte décélération pendant les 9 prochaines heures », répondit Astikché. « Mais nous n'y tenons pas, et ce pour toutes sortes de raisons. »
« Excusez-moi, » dit Manmut, « je ne suis qu'un modeste pilote de sous-marin et non un astrogateur ou un ingénieur. Mais je ne vois pas comment nous pourrions perdre assez de vitesse dans ces conditions, vu la décélération que nous impriment les propulseurs ioniques. Avions-nous prévu quelque chose de spécial pour la dernière phase de freinage ?»«
Sortir les aérofreins, »
répondit Choli, le petit Calistan baraqué aux multiples membres. Manmut s'esclaffa en visualisant la reine Mab, 300 mètres de coque, de passerelles et d'échelles, tout sauf aérodynamique, effectuait une entrée dans l'atmosphère terrestre, puis se rendit compte que Choli ne plaisantait pas.
Ce truc a des aérofreins!
Rétrograde Sinopécène s'avança en trottinant sur ses pattes arachnéennes.
Bien sûr! Cette manœuvre était prévue dès le départ. Le plateau pousseur de 60 mètres de diamètre pourvu d'une couche ablative peut se rétracter et se déformer de façon à constituer un bouclier thermique. Le champ de plasma qui nous entourera ne gênera en rien la manœuvre. Il ne nous empêchera même pas de maintenir nos communications Maser. Initialement, nous comptions entamer une manœuvre en douceur à une altitude de 145 km au-dessus du niveau de la mer, en effectuant plusieurs passages de façon à réguler notre orbite. Le plus dur sera de négocier les anneaux P et E, car on y trouve nettement plus de débris que dans la division de Cassini. Mais les calculs ont été faciles à faire. Il faudra louvoyer ferme, point. Mais puisque cette dame nous a sommé de visiter son astéroïde de l'anneau P, nous prévoyons de descendre jusqu'à 37 km, de ralentir plus vite que prévu et de nous caler sur l'orbite de rendez-vous dès la première tentative.
Orphue siffla. Manmut s'efforça de visualiser la manœuvre.
« Vous comptez descendre jusqu'à 30 000 mètres et quelques de la surface? Nous pourrons distinguer jusqu'au visage des habitants humains ?»«
Pas tout à fait, » dit Astikché. « Mais notre arrivée sera plus spectaculaire que nous ne l'avions envisagé. Les humains à l'ancienne verront notre sillage dans le ciel, sauf qu'ils seront sans doute trop occupés pour le remarquer. »«
Que voulez-vous dire ?»
demanda Orphue Dio. Astikché leur transmit la plus récente série de photographies. Manmut décrivit à Orphue les éléments que les données annexes ne lui permettaient pas d'assimiler. Encore des images de massacre. Des communautés humaines dévastées, des cadavres humains abandonnés aux charognards. Les capteurs infrarouges montraient des bâtiments brûlants et des corps glacés, et des créatures tout aussi glacées mais acéphales qui tuaient à tour de bras. Sur la face nocturne de la planète, les incendies faisaient rage dans toutes les modestes communautés qu'ils avaient recensées. L'ensemble des humains à l'ancienne semblait subir les assauts de ces créatures métallisées que les experts Moraveks étaient impuissants à identifier. Et les structures de glace bleue croissaient et se multipliaient sur 4 continents, et voici qu'apparaissait l'image d'une gigantesque créature semblable à un cerveau humain hérissé d'yeux, un cerveau de la taille d'un entrepôt, une image animée, une vue en plongée montrant ce monstre trottinant sur des mains titanesques fixées à des tentacules jaillissant de sa masse comme des fibres nerveuses. D'obscènes protubérances émergeaient de leurs orifices pour s'enfouir dans la terre, comme si elles absorbaient sa substance même.
« Je capte bien les données, mais je n'arrive pas à visualiser cette entité, » dit Orfu. « Il n'existe sûrement rien d'aussi laid. Nous la voyons parfaitement, mais nous n'en croyons pas nos yeux, »
rétorqua le général Bébinadi.
« Elle est aussi laide que vous l'imaginez. »
« Y a-t-il une théorie susceptible d'expliquer la nature ou l'origine de cette chose ?»
s'enquit Manmut.
« Elle est associée au site envahi par la glace bleue, et nous l'avons initialement repérée sur le plus vaste d'entre eux, celui de Paris, »
dit Choli.
« Mais cela ne répond pas à votre question. Non, nous ne savons rien de son origine. »
Les Moravecs ont observé la Terre durant des siècles depuis les environs de Jupiter ou de Saturne,
déclara Orfu.
Avons-nous jamais répertorié une entité semblable ?
Non, répondirent en chœur Astikche et Sumacâtre.
Cette cervelle pourvue de mains ne se déplace pas seule,
intervint Rétrograde Sinopécène en affichant une nouvelle série d'images photographiques et holographiques.
Ces créatures sont présentes sur 18 sites où nous avons aperçu la cervelle. S'agit-il d'humains ?
Demanda Orfu, qui avait du mal à interpréter les données lui parvenant.
« Pas tout à fait, » répondit Manmut.
Il lui décrivit les créatures, peau écailleuse, bras démesurément longs, crocs et pieds palmés.
« S'il faut en croire les données auxquelles j'ai accès, ces créatures se comptent par centaines, »
fit remarquer Orfu.
« Par milliers, »
corrigea le centurion en chef Mepahu.
Nous avons analysé des vues prises simultanément dans des sites situés à plusieurs milliers de kilomètres de distance et dénombré au moins 3200 amphibiens de cette espèce.
Caliban,
dit Manmut.
Pardon,
fit Astikche d'une voix intriguée.
Lorsque nous étions sur Mars, intégrateur, les petits hommes verts parlaient de Prospero et de Caliban, les personnages de la tempête de Shakespeare. Les têtes de pierre qu'ils sculptaient étaient censées représenter Prospero. Ils nous ont mis en garde contre Caliban. Ces créatures m'évoquent Caliban tel qu'on le représentait lors de certaines mises en scène.
Aucun des Moravecs ne commenta cette révélation.
11 nouveaux trous de Bran sont apparus sur Terre depuis que nous suivons ce pic d'activité quantique, c'est-à-dire depuis 2 semaines,
dit finalement Bébinadi.
Pour autant que nous le sachions, cette cervelle géante les a tous créés, ou à tout le moins les utilise pour se déplacer. Ces amphibies que vous appelez Caliban les empruntent également. Et leurs déplacements suivent un schéma bien précis.
De nouvelles images holographiques se solidifièrent au-dessus de la table et Manmut les décrivit à Orfu via le faisceau cohérent. Mais son ami avait déjà assimilé les données qui les accompagnaient.
Des champs de bataille ou des lieux associés à des massacres et à des atrocités,
déclara-t-il.
Exactement, opina le général Bébinadi. Vous remarquerez que c'est à Paris que s'est produite la toute première ouverture d'un trou de Bran. Il y a 2500 ans, lorsque l'Empire européen uni a affronté le califat global à coups de trous noirs, plus de 14 millions de personnes ont péri à Paris et dans ses environs.
Les autres sites ne font que renforcer cette hypothèse,
dit Manmut.
Hiroshima, Auschwitz, Waterloo, Otepsa, Stalingrad, Le Cap, Montréal, Gettysburg, Kansas, Okinawa, la Somme, New Wellington ? Autant de lieux ensanglantés il y a des millénaires.
Avons-nous affaire à un touriste morbide parcourant les circuits Galabillo ?
Lança Orfu.
C'est peut-être encore pire,
rétorqua Choli.
Les rayons neutriniques et tachyoniques émis par les sites que visite cette chose transportent de l'information cryptée suivant un code des plus complexes. Ces rayons ne sont pas directionnels, mais interdimensionnels. Il nous est impossible de les intercepter afin d'en décoder le contenu.
À mon avis, cette cervelle est une goule,
déclara Orfu Dio.
Une goule ?
Répéta le prime intégrateur Astikche. Orfu leur définit ce terme.
Je pense qu'elle absorbe une forme d'énergie ténébreuse retenue dans ses sites,
ajouta Lyonien.
Cela me semble improbable,
pépia Rétrograde Sinopécène.
À ma connaissance, la violence ne laisse aucun résidu énergétique mesurable. Ce que vous dites là ne relève pas de la science, mais de la métaphysique, voire de la faribole.
Orphu haussa quatre de ses bras articulés.
Et si cette gigantesque cervelle avait été conçue et réalisée par les post-humains ou les humains à l'ancienne durant les années de démence qui ont suivi le Rubicon?
Dit le centurion en chef Mepahu.
C'est peut-être aussi le cas de ces amphibiens et des robots tueurs à céphales. Un souvenir des arnistes incontrôlés, tout comme les spécimens de faune et de flore anachroniques réintroduits sur la planète.
Pour ce qui est de cette cervelle, sûrement pas,
trancha le ganymédien Suma 4.
Nous l'aurions repérée depuis longtemps. Elle a débarqué il y a quelques jours à peine, en provenance d'un autre univers depuis lequel elle a ouvert un trou de Bran. Quant aux amphibies et aux créatures bossues qui sont en train de décimer les humains, nous ignorons d'où elles viennent. Peut-être proviennent-ils de manipulations génétiques. Rappelons-nous que les post-humains sont sortis du patrimoine génétique humain il y a plus de 1500 années standard.
Et j'ai vu des holos montrant des dinosaures, des oiseaux terreurs et des tigres à dents de sabre rôdant sur cette terre,
ajouta le centurion en chef Mep-Ahu.
Ces êtres métalliques et bossus ont donc tué 10% de la population d'humains à l'ancienne?
Demanda Manmut, qui ne badinait pas sur l'usage du verbe décimer.
En effet,
répondit le général Baby Nadi.
Et peut-être davantage. Durant le temps qu'il nous a fallu pour venir de Mars.
Que faisons-nous maintenant? Demanda Orphu Dio. Si personne n'a d'idée, j'ai une proposition à vous soumettre.
Nous vous écoutons,
dit le prime intégrateur Astikche.
À mon avis, vous devriez décongeler les 1000 soldats Rockvec que nous avons à notre bord, lancer la navette porteuse ainsi que la douzaine de frelons que nous avons embarqués, après les avoir chargés à ras-bord de guerriers armés, bien entendu, et entrer dans la mêlée.
Entrer dans la mêlée?
Répéta Tcholi, l'astrogateur Calistan.
Commencez par larguer une bombe sur cette cervelle pour en faire du pur radioactif,
continua Orphu.
Puis faites atterrir les soldats Moravec afin qu'ils défendent les humains. Tuez ces calibans et ces monstres bossus et acéphales qui massacrent les humains. Entrez dans la mêlée.
Quelle extraordinaire suggestion,
fit Tcholi, visiblement choqué.
Nous ne disposons pas d'informations suffisantes pour arrêter une décision,
déclara le prime intégrateur Astikche.
Pour ce que nous en savons, cette cervelle géante, ainsi que nous l'avons surnommée, est peut-être le seul organisme conscient et pacifique de la Terre. Une sorte d'archéologue ou d'historien interdimensionnel.
Ou alors, c'est une goule, dit Manmut.
Nous avions pour mission d'établir un dispositif de surveillance,
dit Suma 4 d'une voix qui se voulait tranchante.
Pas de déclencher une guerre.
Nous pouvons aisément concilier les deux,
intervint Orphu.
La puissance de feu de la reine Mab suffit à faire pencher la balance du conflit en cours sur Terre. Et bien que Manmut et moi n'en ayons pas été officiellement avisés, nous savons que la Mab est suivie par une flotte de vaisseaux Moravec furtifs d'un type plus moderne. C'est l'occasion ou jamais de frapper cette créature, toutes ces créatures, et de les estourbir avant qu'elles se soient rendues compte de ce qui leur arrive.
Quelle extraordinaire suggestion,
répéta Tcholi.
Tout à fait extraordinaire. Pour le moment,
dit Astikche avec sa voix à la James Mason,
notre objectif n'est pas de déclencher une guerre, mais de conduire Odysseus sur cet astéroïde de l'anneau polaire ainsi que nous l'a demandé la voix.
Et avant cela,
enchaîna Suma 4,
nous devons décider si nous larguons la navette porteuse sous couvert de la manœuvre d'aérofreinage, ou si nous le faisons après avoir transporté notre passager humain dans cette cité orbitale.
J'ai une question, dit Manmut.
Oui,
fit le prime intégrateur Astikche. Originaire d'Europe, lui aussi, il était quasiment de la même taille que Manmut. Tous deux se tenaient face à face, une visière fixant l'autre, tandis que l'administrateur attendait.
« Notre passager humain souhaite-t-il être livré à cette fameuse voix ?»
s'enquit Manmut. Suivit un silence que seul rompirent le bourdonnement des ventilateurs, les messages comme émis et reçus par les Moravec en poste devant les consoles et le fracas occasionnel d'une tuyère de stabilisation.
« Dieu du ciel !»
s'exclama Tcholi.
« Comment avons-nous pu négliger de le lui demander ?»
Nous étions trop occupés,
répondit le général Baby Nadi.
Je vais lui poser la question,
proposa Suma 4.
Mais s'il répond par la négative, cela nous placera dans une position embarrassante.
Nous avons préparé son linge de corps,
dit rétrograde Sinopesen, toujours aussi nerveux.
Son linge de corps, gronda Orfu. Notre fils de Laerte est donc mormon?
Personne ne réagit. Tous les Moraveks s'intéressaient à l'histoire et aux sociétés humaines, leur ADN comme leur circuit évolutif était programmé dans ce but, mais rares étaient ceux qui en étaient aussi férus que le gigantesque Ionien. Son sens de l'humour était également unique.
Bien évidemment, Odysseus porte depuis son embarquement des vêtements que nous lui avons fournis,
pépia rétrograde Sinopesen.
Mais ceux qu'il endossera pour son séjour dans la cité orbitale seront truffés de tous les nanosystèmes d'enregistrement et de transmission possibles et imaginables. Cela nous permettra de suivre ses expériences en temps réel. Y compris ceux d'entre nous qui descendront sur Terre,
demanda Orfu. Il y eut un nouveau silence. Il était rare qu'un Moravec soit plongé dans l'embarras, mais cette sensation ne leur était pas inconnue.
Vous n'avez pas été sélectionné pour l'expédition terrienne,
fit remarquer Astik-Che d'une voix tatillonne mais pas franchement hostile.
Je sais,
répondit Orfu,
mais je pense être en mesure de vous convaincre que la navette doit être larguée pendant la manœuvre de freinage et que je dois me trouver à son bord. La petite niche que Manmut m'a aménagée dans la soute de son sous-marin me conviendra parfaitement. Elle est équipée de toutes les connexions nécessaires et la vue y est splendide.
On a vu sur nulle part depuis ce submersible,
protesta Suma 4,
excepté par le canal vidéo qui risque d'être interrompu en cas d'attaque.
Je faisais de l'ironie, dit Orfu.
En outre,
dit Choli qui émit un bruit rappelant un raclement de gorge,
vous êtes théoriquement aveugle.
Oui, fit Orfu. J'avais remarqué, mais indépendamment de toute notion de quota, non, ça prendrait trop de temps à expliquer. Je peux vous citer trois raisons fondamentales pour lesquelles je dois participer à cette mission terrienne.
Nous n'avons pas encore décidé de la nécessité de cette mission,
lui rappela Astik-Che,
mais je vous invite à exposer les raisons en question. Ensuite, nos primes intégrateurs devront prendre plusieurs décisions au cours des minutes à venir.
Premièrement, il va sans dire que je ferai un splendide ambassadeur auprès de tous les êtres doués de conscience que nous viendrons à rencontrer une fois sur Terre.
Le général Baby Nadi émit un bruit franchement grossier.
Avant ou après les avoir transformés en pur radioactif?
Deuxièmement, il y a le fait moins évident mais tout aussi pertinent qu'aucun des Moraveks présents sur ce spationnef, voire aucun Moravec tout court, ne connaît mieux que moi les romans de Marcel Proust, James Joyce, William Faulkner et George Mary Wong, sans parler des poèmes d'Emily Dickinson et de Walt Whitman. En d'autres termes, aucun Moravec n'en sait autant que moi en matière de psychologie humaine. Si nous devons entrer en contact avec des humains à l'ancienne, ma présence sera indispensable.
J'ignorais que tu avais également étudié Joyce, Faulkner, Wong, Dickinson et Whitman.
Émit Manmut sur le faisceau cohérent.
Le sujet ne s'est jamais présenté,
répondit Orfu.
Mais on a le temps de lire plein de choses quand on passe 1200 années standard dans le torse du plasma Dio.
1200 ans?
Les Moraveks étaient certes conçus pour vivre longtemps, mais on considérait que 3 siècles standard représentaient une durée plus que suffisante. Manmut lui-même n'avait même pas 150 ans.
Tu ne m'as jamais dit que tu étais aussi vieux,
émit-il.
Le sujet ne s'est jamais présenté,
répondit à nouveau Orfu.
Je n'ai pas suivi toutes les connexions logiques de votre déclaration, et votre transmission par faisceau cohérent m'a distrait,
déclara Astik-Che.
Mais veuillez poursuivre. Si j'ai bien compris, vous aviez 3 raisons fondamentales à nous exposer.
La 3e raison pour laquelle je mérite un siège à bord de cette navette, au sens figuré bien entendu, c'est parce que j'ai compris.
Compris quoi?
Lança Suma 4. Le ganymédien gainé de Buki Carbone s'abstenait de consulter ostensiblement son chronomètre, mais le ton de sa voix en disait long.
Tout,
répondit Orfu Dio.
Pourquoi il y a des dieux grecs sur Mars? Pourquoi un tunnel ouvert dans l'espace-temps débouche sur une autre terre où la guerre de Troie, comptée par Homère, a toujours lieu? D'où vient cette Mars terraformée que nous savons impossible? Que font sur la vraie terre que voilà Prospero et Caliban, deux personnages issus d'une antique pièce de Shakespeare? Pourquoi ces trous de brane qui apparaissent un peu partout menacent l'intégrité quantique de l'ensemble du système solaire? J'ai tout compris, vous dis-je.